bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. C'est la bande originale, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez avec Leïla Kadoumoudadi, Daniel Morin,
ouais, c'est ça, ouais.
Albert Algout,
bonjour.
Alexis Le Rossignol,
bonjour.
Frédéric Sigris,
bonjour.
Tout à l'heure Tanguy Pastureau,
salut.
Et notre invité Philippe Degouffé. Bonjour Philippe Degouffé, vous allez bien?
Ça va pas trop mal vous-même?
Mais ben, pas mal, pas bon. Mal. Je suis toujours un tout petit peu énervé puisque nous avons le même âge et quand je vous vois, je me dis je pourrais être comme ça si je travaillais.
Et oh, c'est ça va,
vous me renvoyez.
Non, ah ouais. Non, fishing non, for compliment.
Non, non, ça va
ouais,
pas.
C'est vraiment ça.
Pas du tout.
T'es super bien gaulé, le même.
Non, mais regarde le bouger. Regarde le bouger. Regarde le vivre, regarde le danser.
Il y a des gens qui luttent beaucoup plus que vous. Sachez-le.
Sachez-le. Alors, on va faire comme dans votre spectacle. Philippe Degouffé, vous avez un moment quiz dans votre spectacle, et eh bien nous aussi. Nous c'est plutôt une interro pour savoir, et vous ne faites qu'écouter les réponses de nos camarades de jeu, vous me direz après si elles sont correctes ou pas. Pourquoi Philippe Degouffé fait-il des économies quand il monte sur scène?
Parce qu'il est radin.
Parce qu'il se paye pas.
Non.
Parce qu'il fait jouer plusieurs rôles à plusieurs danseurs.
Alors,
il joue lui-même plusieurs rôles.
C'est vrai qu'à lui seul, il est une chorégraphie entière avec plusieurs... dizaines de danseurs.
Il joue dans les pièces qu'il...
Il se produit.
Il met pas d'éclairage dans la salle.
Non, il dit en fait que ça lui évite de dépenser de l'argent. Mais pourquoi?
Il utilise ses propres costumes.
Non.
Parce que sinon, il a une addiction au jeu.
Non.
Ça lui évite par rapport au décor.
Ça lui... Non.
Pendant qu'il est sur scène, il économise, c'est ça?
Que oui.
Parce qu'il dépense pas pendant ce temps-là.
Oui, mais quoi?
Il mange les pas.
Il se paye pas en tant que producteur.
Non.
Dans la vie de tous les jours,
ouais,
la cantine, tout non. Ça, non
c'est une activité payante.
Il loue son siège.
Non.
Il loue son appartement pendant qu'il est sur scène.
C'est
court. Parce qu'il est loin de chez lui.
Ça lui évite d'aller quelque
faire
part.
Faire les courses, acheter des fringues.
Non. Aller au restaurant.
Non, pratiquer un art, c'est quoi?
S'entraîner.
Aller au cinéma.
Apparemment, il est même au courant lui-même.
D'aller à l'opéra.
D'aller, non.
Au spectacle, voir des danses, des chorégraphies.
Au cinéma, on n'est pas loin, je pense.
Au cirque. D'aller voir un chirurgien, un médecin, un professeur.
Un kiné.
Un psy.
Oui.
C'est une thérapie. C'est une thérapie.
Oui. Ah, yes.
Voilà. On est dans la dimension cathartique.
Ah, yes.
Bravo, j'aurais pas dit mieux.
Mais j'avais envie de le placer.
Ouais, c'est bien.
Voilà. Je sais qu'il y a des gens qui vont voir aussi l'enregistrement du Masque et la Plume, donc je me suis dit, il faut larguer des mots comme ça.
Ce n'est qu'une formule, Philippe, ou c'est sincère le côté, ça m'évite d'aller voir un psy, d'être sur scène. Ça me fait un bien fou.
En tout cas, ça me fait du bien. C'était une formule un petit peu...
psychanalytique, quand même.
Non, mais ça fait vraiment du bien. C'est très, très agréable.
C'est-à-dire, vous ne sortez pas fatigué de la scène?
C'est-à-dire, je sors fatigué de l'entraînement. C'est me préparer à la scène, mais puis me fatigue. Ça, c'est vraiment du boulot, parce qu'il faut s'occuper de son corps et faire en sorte que le corps arrive à faire ce que la tête a envie de faire. Enfin, bref. Mais ensuite, une fois que... Enfin, vous connaissez l'endomorphine, ça vous est arrivé de danser dans des boîtes de nuit et puis de vous rendre compte qu'au bout d'un moment...
Ça m'est arrivé de sécréter, oui.
Voilà, qu'il y a une espèce de plaisir. Il y a une espèce de plaisir immense qui arrive. Bah, c'est quand on est sur scène, c'est encore multiplié.
Qui connaît de ne plus connaître la fatigue, d'ailleurs.
D'une part, ça permet de plus connaître la fatigue, et d'autre part, il y a un stade, quand on est encore une fois sur une scène, mais c'est quelque chose, il y a une communion avec le public, quelque chose qui fait qu'il vous porte, et que vous faites du surf à un moment
à la
donné.
À la différence de la psychanalyse, où on en apprend un peu plus sur soi.
On n'apprend rien du tout.
Monsieur.
On résout peut-être des problèmes, ça fait du bien en tout cas à certaines personnes, sûrement. Est-ce que c'est le cas pour vous?
Comment, quoi
T'es plus là.
Ah, vous pensez que nous parlons que tous les deux? Non, je dis, la notion de psychanalyse est faite pour résoudre des problèmes ou expliquer certaines failles.
Oui, bah écoutez, moi sur scène, je me livre. C'est quelque chose d'assez... Il y a une forme de mise à nu.
C'est très personnel.
C'est très, très... Le solo pour lequel je suis ici, pour lequel je viens faire de la promotion pour un spectacle que j'exécute la semaine prochaine,
qui est formidable.
Et que j'exécute à la Maison de la Culture de Bobigny, dans le 93.
On va le dire, vous inquiétez pas, on y arrive.
On n'est pas à la fin de l'émission.
Philippe Degouffé,
je préfère enchaîner la promotion. C'est dégoût, je vais la faire moi-même.
Tout va bien, il reste encore du temps.
Ok, question suivante. Allez, pendant quelques cours, Philippe Degouffé a-t-il monté ses premiers spectacles?
De théâtre avec sa prof?
Non.
Cours de maths?
Non.
Poterie?
Français? Macramé?
Poterie?
Mais oui, il a fait de la poterie.
De judo?
De clown? Non.
Répète la question.
Science nat.
Lors de quel cours a-t-il monté ses premiers spectacles?
Cours de gym.
Cours de physique.
Non.
Bio.
Non.
Anglais.
C'était à l'école,
cours de danse,
quoi.
Maths.
C'était l'école.
Géographie.
Cours de dessin.
Visiblement une école privée, en tout cas.
Cours de dessin.
Ah,
cours
catéchisme.
C'est exactement.
Mais je l'ai dit avant.
Non, non, non.
Ah, je l'ai dit avant. Non, mais non. Les gens sont témoins.
Tu l'as peut-être pensé avant, mais le temps que ça arrive à ta bouche.
Ça fait deux points.
Oh, donc vous savez des choses que j'ai oubliées. C'est merveilleux.
Vous vous déguisiez, vous vous maquilliez et vous montiez des spectacles.
Absolument. Absolument, j'ai des photos.
Mais je fais ça avec mes jeunes.
Oui, c'est ça, c'est ça. En recherche.
En recherche. L'émotion.
Le maquillage, Philippe, lors du catéchisme, je vois pas très bien.
Mais
comment...
Alors, je pense qu'il y avait devait y avoir une fois par semaine un atelier au cours duquel on pouvait faire un petit peu ce qu'on voulait. Et à l'époque, j'étais très impressionné par Alice Cooper. Et donc, je me maquillais comme Alice Cooper.
Non, c'est vrai, c'est les années David Bowie, Alice Cooper,
oui,
Kiss
aussi.
Absolument.
Ouais, absolument. Il y avait Kiss et Alice Cooper, tout ça.
Donc, ça et l'aumônier, il se déguisait aussi.
Écoutez, on va pas rentrer là-dedans, mais c'est vrai,
c'est le cas de le dire.
Très belle formule. Il y a une quinzaine d'années, Philippe de Coufflet part à Las Vegas pour monter un spectacle avec le Cirque du Soleil. Quand il débarque là-bas, il est à milieu de penser qu'il va
se ruiner.
Non.
Jouer au casino.
C'est pas loin.
Il va
se ruiner. Non.
Renoncer.
C'est pas lui.
Qu'on va le virer.
Exactement, Alexis. Exactement. Vous allez vous faire virer par le Cirque du Soleil. J'ai du mal à prononcer la phrase. Tellement ça me choque.
Oui, enfin, c'est une histoire compliquée. Disons que mon histoire avec le Cirque du Soleil aura été compliquée. La première fois, ils m'ont proposé de travailler pour eux. Cette grosse maison m'a fait peur. Parce que j'ai vu que c'était une industrie, il y a un côté quand même Mickey, il y a un côté, c'est une grosse machine à produire des spectacles. Donc d'un côté, ça permet
de faire... Qui est très impressionnante.
Voilà, mais ça permet de réaliser des rêves, mais d'un autre côté, c'est quand même une grosse machine à fric. Donc j'étais...
Et pardon, quand on dit le Cirque du Soleil, c'est un monsieur ou une dame qui est patron-patronne du Cirque du Soleil
ou c'est Monsieur Soleil.
C'est une espèce d'entité.
C'était
un Madame Soleil.
À l'époque où j'ai travaillé, j'avais été sollicité par Monsieur Guy Laliberté, qui était donc le boss du Cirque du Soleil. D'accord. Joli nom pour le boss du cirque. Et aujourd'hui, il a revendu. Donc maintenant, ça appartient à un groupe.
C'est un fonds d'investissement.
D'accord, carrément.
Américain.
Ouais. Donc je pensais que c'était. Et vous, à l'époque, donc c'était dans un rapport humain que ça n'allait pas.
Non, disons que ça. J'ai eu peur, encore une fois. J'ai eu peur de vendre mon âme au diable. Donc la première fois, j'ai commencé. Je suis parti. Et ensuite, c'est vrai que sur le projet de Vegas, c'est eux qui m'ont remercié. Mais c'était pas un projet évident.
Non, mais puis vous êtes parti. J'allais dire en faisant, c'est soit un pied de nez ou un bras d'honneur à ceux que vous quittiez.
J'étais parti pour faire un des plus gros spectacles du monde en Amérique et devenir millionnaire. Et puis je suis rentré. Seul et sans travail. Donc du coup, à ce moment-là, j'ai décidé quoi ? J'ai décidé de faire un solo.
C'est une
solo que je vais encore présenter la semaine prochaine.
C'était une leçon d'humilité. C'est-à-dire que d'un coup, vous avez dit
ça m'a dégonflé
les chevilles parce que je me suis vu trop beau.
C'est vrai qu'elles étaient les Jeux Olympiques d'Albertville ont engendré chez moi un gonflement de la cheville assez impressionnant et ça m'a calmé, oui.
Et à l'inverse, vous n'avez pas eu envie de faire votre Cirque du Soleil à vous, c'est-à-dire de dire je vais monter moi mon Barnum et il y a pas de raison que nous ne soyons pas capables d'avoir une troupe aussi impressionnante.
J'ai eu envie de ça. Après c'est difficile en France en fait de trouver de l'argent privé pour monter des gros spectacles comme ça.
Oh, même de l'argent tout court. Hein.
Oui. oui, c'est vrai.
Pardon, Philippe, s'ils y arrivent, eux, pourquoi on ne serait pas capable de le faire ?
Parce que c'est l'Amérique et parce que le cirque s'appuie sur... Ils ont fait leur fortune, je ne veux pas dire de bêtises, mais essentiellement au départ sur justement Las Vegas, où il y a un marché énorme du divertissement.
Et sur des salles où les billets sont à 300-400 dollars la place.
Absolument,
c'est
les places sont très chères, c'est des grandes
salles. Ce qui n'est pas imaginable en France, on ne pourrait pas avoir un spectacle à 300 € le ticket.
Ça marche moins bien. Je pense qu'il y a des grandes stars qui y arrivent, non ?
Oui, le grand acteur américain, par exemple, qui est venu il n'y a pas si longtemps à Paris.
C'était un one-shot, mais c'était fou.
Non, mais
le Cirque du Soleil, c'est 90 € à peu près, c'est déjà cher. Ils ne remplissent pas en France. Quand je balance des trucs là, mais si tu fais bien.
Enfin, non, enfin, chaque fois que je suis allé voir, c'était plein. Et puis,
mais parce que tu y étais.
Il y avait.
Donc les gens viennent. Il y a beaucoup d'invités.
C'est ça. Je ne comprends pas pourquoi, Philippe, depuis que vous êtes là, vous n'avez pas encore dit que vous serez du 19 au 22 décembre au MC 93, la Maison de la Culture de Bobigny. Bobigny.
J'allais saisir l'opportunité d'en parler.
Je suis choqué. Je suis choqué. On dit plus MJC maintenant, on dit MC.
Alors, c'est pas du tout la même chose.
Expliquez-moi la différence.
Alors, il y a les maisons de la culture et les maisons des jeunes et de la culture ne sont pas du tout la même chose.
Les
maisons de la, oui, c'est pas le même réseau. Les maisons de la culture, c'est des grosses boutiques. C'est André Malraux qui a inventé ça il y a longtemps maintenant.
Très bien. Donc, vous, c'est MC 93, Maison de la Culture de Bobigny. Le 29 mai ainsi que du 4 au 8 juin prochain, vous serez au Théâtre National de Chaillot pour un spectacle incroyable, extrêmement impressionnant, drôle, parce qu'il n'y a pas que la danse, et vous redonnez toutes les lettres de noblesse à la formule d'expression corporelle, parce que c'est vraiment ça, vous réussissez avec votre corps à faire passer des idées, des images et des textes.
C'est gentil, je fais ce que je peux, écoutez,
vous pouvez beaucoup alors
C'est ouais. De ce côté-là.
Ah pardon.
Excusez-moi, je suis avec le casque, je ne sais plus.
Vous n'avez plus qui parle. Non, mais vous donnez beaucoup. Ouais.
Je donne beaucoup. C'est une vraie performance et ça reste pour moi une expérience merveilleuse et très importante d'aller sur scène comme moi-même, parce que faire bouger les autres, c'est une chose, mais défendre son propre travail, c'en est une autre.
Alors qu'est-ce qui a guidé, quelle est la ligne directrice, le synopsis de ce spectacle? Est-ce que ça s'écrit comme un scénario, c'est-à-dire vous avez pris un papier, un crayon et vous avez raconté une histoire, ou ça s'écrit devant une glace en faisant des mouvements?
Non, alors ça s'écrit plutôt devant un public en écoutant, mais c'est un peu, je pense que c'est le même principe pour les comiques, on essaye des choses devant le public jusqu'à ce que ça fonctionne. Donc j'ai cherché plusieurs formules. D'une part, il fallait que je tienne le coup, il faut physiquement et moralement construire quelque chose qui vous permette de tenir pendant 1h15 ou 1h20 et d'avoir du souffle jusqu'au bout. Ce qui n'est pas évident.
C'est une première contrainte déjà.
Bah ouais, parce qu'au tout début, quand j'ai commencé à faire ce solo, au bout d'une demi-heure, j'étais essoufflé, épuisé, à bout de, j'en pouvais plus. Et donc, il a fallu trouver un rythme, trouver des breaks, trouver des moments des ralentissements, des accélérations. Enfin, c'est comme.
Il y a même des moments où vous asseyez.
Ça m'arrive.
Vous dire à quel point. Oui. Non, mais c'est extrêmement drôle. Vous avez la malice de vous servir d'un jeu de projection, d'un jeu de lumière, d'un jeu d'ombre. De caméras également qui viennent vous filmer, qui viennent vous démultiplier. Là, c'est aussi la technique sur laquelle vous vous êtes reposé.
Bah, disons que j'ai eu l'idée de faire ce solo un jour où je donnais un stage de vidéo danse. J'apprenais aux gens à filmer la danse. Et une caméra s'est déréglée. Et je me suis rendu compte que je me suis retrouvé dans un effet de feedback. Donc, où j'étais
un écho
vidéo. Ouais. Donc, j'étais multiplié à l'infini. Il y avait une dizaine de moi-même.
C'est ce qui se passe quand une caméra filme une télévision dans laquelle elle est projetée.
Un meeting de Mélenchon.
Mais c'est ce que non, ça c'est l'hologramme. C'est ce que faisait beaucoup Jean-Christophe Averty ou les réalisateurs des années 70. Même Guy Lux quand il faisait ses variétés comme ça, il démultipliait les chanteurs à l'infini.
Jean-Christophe Averty, un de mes maîtres. J'étais très, très, très amateur de son travail. Et donc j'ai découvert ce procédé qui me permettait d'être sur scène, d'être seul sur scène, tout en n'étant pas seul. Tout d'un coup, j'avais une dizaine de clones et je pouvais jouer avec ces clones. Et ça m'a intéressé, amusé, interrogé. Et du coup, j'ai travaillé là-dessus et j'ai développé. J'ai commencé à bosser à partir de ce moment-là pour essayer de construire un spectacle à partir d'une seule personne, en l'occurrence moi, donc un mélange de autobiographie et aussi de tenter de faire un spectacle tout seul et de faire parce que a priori je dois être une des personnes les mieux placées pour défendre mon propre imaginaire et montrer ce que j'aime faire. Donc après, mes seules limites sont les limites de mon outil, c'est-à-dire de mon corps.
Et ce que vous donnez à voir sur scène, c'est aussi un constant travail de recherche. C'est ce que j'aime bien, moi, dans votre pratique à chaque fois que je viens voir un de vos spectacles, c'est que je vois l'art évoluer, se dialoguer avec avec lui-même, même dans la pratique. On vient de parler de cette trouvaille-là, de la démultiplication.
Il faut dire que le spectacle a 15 ans à peu près, hein, mais il a donc évolué pendant ces 15 années. Pardon.
Nécessairement, et on voit la démultiplication de Philippe de Coufflet, de ce solo qui devient une sorte de solo à plusieurs facettes. Et je me demande comment est-ce qu'on se met dans cette perspective-là, dans sa tête. Comment est-ce qu'on se positionne toujours pour être sans cesse dans cette recherche permanente. On pourrait se dire, ça marche,
se satisfaire, ouais, c'est ça.
On garde.
Ouais. Bah,
ça nourrit d'autres choses.
C'est mon travail.
On pourrait aussi s'arrêter là.
Ah
on
oui.
pourrait, mais je veux dire, c'est, on le voit dans les différentes
puis
chorégraphies.
Surtout, il faut faire des choix, j'imagine. Quand vous faites quelque chose de nouveau, vous abandonnez autre chose. Et est-ce que c'était bien de le laisser tomber, de le lâcher, voilà.
De le remettre
c'est
dans une autre
chorée. C'est souvent les rencontres qui guident les choix qu'on fait. Mm-hmm. Au fur et à mesure de ma carrière, je rencontre des collaborateurs, je travaille avec eux et ça me pousse à aller dans telle ou telle direction en fonction de leur de leur désir, de leur capacité. Mais c'est vrai que je suis dans une, en tout cas intérieurement, dans une recherche permanente de nouveautés, de nouvelles formes artistiques, et j'essaye constamment de lier cette recherche, cette envie de creuser des nouveaux sillons, et en même temps ce désir d'être accessible, de faire en sorte que ce soit facile à saisir, que les
c'est
petits
le
comme les grands puissent attraper quelque chose, et qu'il y ait plusieurs niveaux de lecture, de manière à ce que tout le monde puisse... du plaisir.
Et c'est pas uniquement les amateurs de danse qui peuvent être touchés par ce spectacle, parce que il y a c'est du visuel, c'est très musical, ça va du plus petit détail, c'est-à-dire imaginer un haka réalisé par des doigts de pied et les doigts de la main extrêmement probant, drôle et original, jusqu'à évidemment des chorégraphies où on a l'impression de se retrouver à Hollywood au bord d'une piscine avec Esther Williams et une chorégraphie où plein de danseurs ou de danseuses plongeraient comme ça les unes après les autres dans la piscine. Et pour finir, comble d'un spectacle musical live avec un musicien qui vous accompagne pour finir, en silence et en danse, c'est-à-dire que tout est abordé, y compris les vannes sur votre propre famille ou sur votre propre vie privée. D'ailleurs, vous présentez vos différents enfants issus de différentes histoires pour en arriver à cet épanouissement sur scène. Ça s'appelle Solo, mais il est loin d'être seul. Déjà, à mon avis, il n'est pas seul dans sa tête.
C'est ça.
Il n'est pas seul dans sa tête.
Il y a du
monde. Du 19 au 22 décembre à Bobigny, MC93, maison de Bobigny. Maréchal Ganache, c'est un succès annoncé.
Oui, écoutez, c'est simple, mon cher Nagui. Je ne reviendrai pas sur les qualités exceptionnelles de ce spectacle, dont je dirais, moi qui ne peux rester assis plus de 3 minutes, qu'il m'a laissé sur le cul. Pendant plus d'une heure, je suis resté vissé, collé, ventousé à mon fauteuil roulant. Fasciné, comme hypnotisé par votre prestation, monsieur de Coufflet. Et vraiment, je veux dire mon képi, car vous êtes un sacré lascar. Vous annoncez solo, on vient de le dire, et vous voilà en double, en triple, décuplé, centuplé, cloné, et davantage en une géniale polyphonie visuelle, où vous faites aussi feu, Nagui l'a dit, feu de tout doigt. C'est beau ce que je viens de dire, c'est pas mal.
Feu
de tout doigt.
De tout doigt.
Oui, pas feu de tout doigt, mais
j'avais compris.
Non, il faut vous expliquer, vous me demandez.
Non, c'est pas ça. Heureusement que j'en avais parlé juste avant, sinon on comprenait rien.
Justement, je vous citais. Et pour moi, un type qui a participé à des défilés, alors, ok, c'était celui du bicentenaire de la Révolution, qui en a organisé, ok, c'était des défilés de mode, qui a créé une revue, ok, c'était au Crazy Horse. Eh bien, pour toutes ces raisons, j'en bafouille, paramilitaire, c'est un type qui ne peut pas me déplaire. C'est pas tout. Un gars qui a créé une compagnie qui s'appelle DCA.
Ouais.
Ok, ça veut dire diversité, camaraderie, agilité, et non défense contre avion. Eh bien, un gars avec de tels états de service, même s'il porte pas l'uniforme, je me dis qu'il en a dans le froc. Et puis, j'aime la danse, vous savez, que pratiquait mon épouse Edmond en solo dans les cabarets de Saigon. Mais c'est une autre histoire. Alors, vous comprendrez, Nagui, que j'ai bien rigolé en vous entendant mouiller la compresse de monsieur de Coufflet, comme vous venez de le faire. Pourtant, c'était un autre son de cloche, juste avant l'émission. Quand vous avez dit à GNB, notre rédac-chef, solo? Ah, c'est super! Bruno est déjà venu au moins 15 fois dans l'émission. Mais c'est toujours un plaisir de le recevoir. Mais il ne s'agit pas de Bruno solo, oh mon Dieu et mon maître, mais de Solo, le spectacle de Philippe de Coufflet.
Philippe de quoi ? De Coufflet, un formidable chorégraphe et un étonnant danseur. Mais tu sais bien que je déteste la danse, à part le slow. Mais il y en a un dans solo. Ok, passe-moi ta fiche, Philippe. De quoi, déjà ? Voilà, cher Philippe de Coufflet, voilà
fou,
comment...
Non,
je suis un peu enrhumé. Comment se prépare la bande originale
N'importe
dans
quoi.
Le mépris de la danse ?
C'est honteux, monsieur.
La haine de l'art vivant est le plus complet, je m'en foutisse. Ma bonne émission, quand même.
Merci,
allez.
Justement, Philippe de Coufflet, les initiales DCA, au départ c'était De Coufflet et compagnie associée, c'est devenu diversité, camaraderie, agilité, et vous déclariez il n'y a pas si longtemps que vous changiez régulièrement le sens de ces initiales aujourd'hui. C'est alors, quoi la dernière version?
L'acronyme, c'est quoi maintenant?
Ouais. Oh là là.
Vous avez inventé
dépression.
Vous avez inventé quoi?
Distribution. Non, Minute Tristesse, c'était mon grand ami Christophe Salingros qui était spécialiste du renouvellement du sens de ses initiales. Et là, depuis son départ, j'ai arrêté de penser à ça.
D'accord, donc on garde DCA.
Voilà.
On ne bouge plus.
Très bien. Ce qu'il y a de plus difficile dans ce spectacle, au-delà de... Vous l'avez beaucoup dit d'ailleurs, de votre forme physique, des limites de votre corps. Vous ressentez ces limites. D'ailleurs, il y a des moments où, quand vous parliez d'être essoufflé au bout d'une demi-heure dans les premières créations, est-ce que vous vous interdisez de faire certaines choses ?
Comme vous le faisiez remarquer au début, nous avons le même âge,
nous avons le même
donc
âge.
Ça doit vous donner une petite idée.
Je ne serais pas capable de faire 4 minutes de ce que vous faites.
Voilà. Donc du coup, par exemple en ce moment, puisque je performe la semaine prochaine ce solo,
à Bobigny, je crois.
Alors c'est à la Maison de la Culture de Bobigny, dans le 93, si vous voulez l'adresse précise. Je peux vous
Il ne faut pas comprendre, ce n'est pas une MJC. Hein.
Ah, le comité de répétition, on aime ça, nous.
D'accord. Oui, en ce moment, je m'entraîne tous les jours. Et ça n'est pas toujours une partie de plaisir.
C'est quoi alors? C'est du cardio? C'est de la musculation?
Je vais prendre des cours de danse. J'ai un professeur qui est le même depuis, qui est un professeur qui s'appelle Peter Goss, qui est un immense professeur de
danse.
J'arrive
pas à croire que Philippe de Coufflet prenne des cours de danse.
Si, absolument. Donc, c'est ça. mais on peut toujours, c'est un métier qu'on peut toujours apprendre.
Comme
enfin, j'apprends des trucs tous les jours. Ce prof merveilleux explique comment placer tel os par rapport à tel tendon. Et enfin, c'est un travail extrêmement précis sur le corps. Vous pouvez faire un entraînement de 2 heures qui est focalisé sur une vertèbre ou sur
C'est le sentiment que l'on a en vous voyant danser. On a le sentiment que vous connaissez chaque muscle de votre corps.
Pas du tout.
Que vous les connaissez et que vous êtes capable de les diriger et d'interagir. On a souvent.
J'y travaille, mais c'est un travail de longue haleine, vraiment.
Mais ça passe par l'anatomie, ça passe par la connaissance du corps.
Oui, absolument. Ah bah oui. Bah oui, c'est un outil.
Il
faut empiler des os qui sont ensuite...
Non mais sur des détails, je m'explique pour être un tout petit peu plus clair. Il y a des personnes qui arrivent à soulever un sourcil comme ça tout seul et puis appeler. Et puis alors, il y a d'autres qui s'entraînent qui disent « mais moi j'y arrive pas ».
Emmanuel Macron le fait très bien.
Comment tu y arrives et ainsi de suite.
Non,
vous comprenez ce que je veux dire. On a tous des muscles, mais certains arrivent à décider d'en bouger certains et d'autres n'y arrivent pas.
Comme bouger les oreilles.
N'ont pas repéré le chemin. Donc comment travaillez-vous ça? Comment travaillez-vous le chemin entre le cerveau qui décide d'activer un muscle et là où se trouve le muscle?
Entraînement de tous les jours.
C'est vrai.
Ouais, bien sûr. C'est un entraînement de tous les jours. Il faut bosser. C'est comme tout.
Mais est-ce que tout le monde a ce rapport-là à la pratique de la danse? Pas nécessairement. Ou c'est... Il y a plusieurs familles, clochers
comme...
dans...
Ouais. Oh, c'est sûr. C'est comme en littérature ou un peu partout en cinéma ou je ne sais quoi. Ou en musique. Il y a plein d'écoles différentes.
Et vous avez toujours été dans cette école-là, vous? Vous avez toujours été dans cette école-là d'être dans une...
Je n'ai pas l'impression de faire partie d'une école plus que d'une autre. Ouais. Moi, je suis un garçon curieux et donc j'ai étudié... la danse classique, comme là, par exemple, l'été dernier, j'étais dans le Morvan, étudier les danses folkloriques, que je trouve merveilleuses et passionnantes. Donc, j'ai un intérêt pour tout ce qui bouge.
Vous êtes un garçon curieux, maintenant voici un curieux garçon, Alexis Le Rossignol.
Oh là là, c'est une jolie transition.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Et à chacun. Bonjour les dames des Deux-Sèvres.
Bonjour. Ouais.
Alors nous sommes aujourd'hui le vendredi 14 décembre et c'est la journée mondiale de rien du tout. Des journées mondiales, il y en a plus de 450, soit plus que le nombre de jours dans l'année. Et moi je m'étais dit, le jour où tu seras en panne d'inspiration, tu parleras de la journée mondiale du jour. Daniel Morin le fait une semaine sur deux. Ça fera pas de moi le chroniqueur de l'année, mais après avoir consacré une chronique à Kim Kardashian puis une autre à Pamela Anderson...
Ouais, c'est vrai.
Je me disais, t'as le droit de traiter des sujets légers. Surtout qu'en période de fête, les gens ont envie de se changer les idées. Le monde va mal, on le sait. C'est la surenchère du grotesque. Si des extraterrestres nous observent quelque part, à mon avis, on va avoir du mal à les trouver. Ils doivent se cacher dans des cratères ou sur des plots de chantier pour pas qu'on les débusque. Restez là où vous êtes, les gars, vous ratez rien. La preuve, l'animation du jour à Lille, c'est une dégustation de bière vaginale.
Quoi ?
Une bière brassée en Pologne avec les sécrétions de Monica et Paulina, deux mannequins qui ont fourni le nectar divin.
Mais non.
Mais si. Alors moi, le nectar divin, je vois ce que c'est. Hein. Ça m'est arrivé d'y goûter. C'est tantôt sucré, tantôt amer. Globalement, pas mauvais, mais j'y tremperai pas des tartines. Alors, en boire une canette, encore moins.
Dans la bière non plus.
Sinon, à part ça, aujourd'hui, il n'y a pas de journée mondiale. C'est pas de chance, parce que parfois, il y en a plusieurs le même jour. Comme le 25 mars, journée mondiale de la procrastination et du souvenir de l'esclavage. Oui. A priori, les deux n'ont rien à voir. Mais célébrer l'art de ne rien foutre tout en ayant une pensée pour ceux qui mouraient d'épuisement sous des coups de fouet, c'est un peu limite quand même. C'est un peu comme si on instaurait une journée mondiale commune pour célébrer les gilets jaunes et la fin de l'ISF. Même Emmanuel Macron n'aurait pas cette idée-là. De toute façon, notre président, il va plus rien instaurer dans les 3 ans à venir. Il a quand même été menacé de mort. Il est aussi serein qu'un prof de latin en ZEP. Au prochain 14 juillet, c'est pas dans une voiture militaire qu'il va défiler, c'est dans un char Leclerc. En ce moment, tout ce qui est jaune l'effraie. Quand on lui propose une omelette, il tourne de l'œil. Bref, aujourd'hui, il n'y a pas de journée mondiale, donc pas de sujet à tout trouver. S'il y en a un qui joue de malchance, c'est bien moi. C'est ballot parce que vendredi prochain, c'est la journée mondiale de l'orgasme. À une semaine près, j'aurais fait un carton en vous expliquant comment jouer un cochon. Bon, je le raconte dans mon spectacle. Vous pouvez vous rattraper en venant me voir.
Le dimanche au Scénarium.
Exactement.
On a hâte.
Vous savez pourquoi je gagne jamais au loto, moi ?
Parce que tu ne joues pas.
Exactement. Le slogan de la Française des Jeux, c'est 100% des gagnants ont tenté leur chance. Soit. Mais en attendant, 100% des joueurs qui ne gagnent jamais perdent tout le temps. Celui qui se dit « j'ai pas gagné, dommage », devrait se dire « j'ai encore perdu, dommage aussi ». Ce que je veux dire par là, messieurs, dames, c'est que quand tu fondes ta réussite sur un fait hypothétique, tu contrôles plus rien. Évidemment, il faut provoquer la chance, mais faut pas être borné non plus. Une fois, j'ai eu de la chance, c'était il y a 10 ans, j'ai gagné une compétition de taekwondo. On était 3 dans la catégorie des moins de 74 kilos, dont 2 ceintures noires, et moi, niveau ceinture blanche, acheté la veille chez Decathlon. Franchement, je m'étais dit, au mieux, tu fais 3e, au pire, tu fais 3e, c'est pas si mal. Joie du tirage au sort, les deux balèzes se sont affrontés au premier tour. Ils se sont mis un high kick dans le nez en même temps. L'un est sorti sur saignement, l'autre sur dents en moins, j'ai fini premier. Ceux qui n'avaient pas vu les combats m'applaudissaient comme un vrai vainqueur, les autres trouvaient que j'en faisais un peu trop sur le podium. Mais moi, je savais que c'était mon dernier championnat. Faut savoir partir au sommet de son art. Alors, ce que je viens de vous dire n'a aucun rapport avec le début de la chronique, mais c'est pas grave. Moi, je pense à l'auditeur qui vient d'allumer le poste et qui se dit, tiens, je le connais pas celui-là, mais il a une jolie voix et son histoire de karaté me touche. Je vais écouter jusqu'au bout. Eh bien, cher auditeur qui vient d'arriver, j'ai envie de te dire, trop tard, parce que c'est déjà fini. C'était une chronique sur la chance et toi, tu es passé à côté. Dommage.
Merci, excellence. La bonne originale. La musique très présente. Il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, très peu de moments où il n'y a pas de musique dans votre spectacle. Philippe de Couvelet, je crois qu'il n'y a que la fin et les moments où vous parlez, les moments où vous faites un quiz assez plaisant. Le sens de l'humour, la présence en tout cas de cet humour, y compris dans les gestes, même sans parler, c'était une évidence pour vous.
J'ai besoin, j'ai envie de prendre du plaisir à faire ce que je fais et de et faire
la danse, en sorte que la danse moderne, on se dit pas, elle va nous faire rire, la danse moderne. On s'attend par moments à de l'érotisme, à être surpris, à être ému, à être touché, mais on dit pas, tiens, je vais marrer.
C'est vrai que c'est pas une composante de tous les chorégraphes contemporains. On peut pas dire.
Oui, mais regardez tout le cinéma muet, tout le burlesque, c'est du mouvement, c'est des personnages qui bougent sans parler et qui font des choses plutôt marrantes.
Non, mais je dis pas que
marrantes.
C'est pas possible.
Hein. Donc, je sais pas. Vous, dans vos spectacles, ouais, c'est vrai qu'il y a une composante. Il y a une composante drôle à chaque fois, que ce soit dans la dimension burlesque, même dans les feuillages, comme vous le mettez en scène, ou la création de doubles têtes, de personnages complètement improbables, où visuellement vous jouez avec nos représentations habituelles. Vous avez quand même cette carte là que vous jouez à chaque fois.
Oui, mais parce que
mon
comment, je n'essaye pas de, mon but n'est pas de m'inscrire dans le respect d'une histoire de la danse austère. C'est mon but, c'est de faire de prendre du plaisir et d'en donner. Donc je me sers d'un moyen d'expression qui est physique pour ça, mais dans lequel
j'ai
toutes sortes de trucs.
Et des ombres et des projections et de ce trombone qui, en fonction de la manière dont il joue, vous allez faire un personnage qui va plus ou moins grossir, plus ou moins maigrir, voire éclater. Comment s'appelle ce tableau d'ailleurs ? J'ai adoré celui-là.
Alors, qu'est-ce que tu...
Le tableau trombone où vous êtes en
alors,
ombre
de,
comme
de,
ça.
Il se trouve que on parle d'un solo, mais c'est pas du tout un solo. Nous sommes six. Donc j'ai trois techniciens, Patrice Besombe, Claire Thiébault et Laurent Radanovic. Et puis on est trois à agir. Il y a Olivier Simola qui me filme et il y a Joachim Latarget, musicien, qui joue du trombone et qui m'accompagne au trombone tout le temps. Et on n'est pas loin d'un duo entre un trombone aussi.
Ukulélé aussi, ouais.
Aussi, mais il est essentiellement du trombone, ouais. Et on est vraiment dans un rapport. Moi, j'ai toujours trouvé que la musique et la danse étaient deux arts qui étaient très 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 proches et qu'on se nourrit l'un de l'autre avec beaucoup de plaisir et de facilité.
Et ce tableau a un nom ou pas ? Est-ce que vous titrez les séquences ?
Les séquences ont des noms
que vous avez
oubliés. C'est des noms de code. Non, mais je veux dire, ça veut 24. Rien dire. Vous avez un truc qui s'appelle la boucle, une autre partie qui s'appelle la ligne. Il y a le petit bal.
Il y a un qui s'appelle squelette.
Absolument, il y en a un qui s'appelle Squelette et dont vous nous jouez la musique actuellement.
Voilà. Donc c'est pas celui-là. Sylvestre. Moi j'ai des noms, mais je ne sais pas à quoi ça correspond.
Ah, c'est bien. C'est les noms que donne le compositeur à ces morceaux. C'est encore
d'accord,
autre chose.
D'accord. Très bien, bon, je vais pas insister, alors écoutez.
Mais en tout cas,
face à l'adversité, il faut savoir se replier de temps en temps. Oui, il y a un moment, il faut pas, insister.
C'est vrai qu'on peut parler de la musique et de vos collaborations avec des musiciennes sur scène, notamment. Je pense à Claire Diterzi, je crois, qui avait joué dans l'un de vos spectacles, mais encore Jeanne Haddad aussi.
Absolument.
Qui était sur scène dans cette création un peu folle où vous rendiez hommage un peu à l'histoire de la musique, à Bowie.
À David Bowie, le spectacle sur David Bowie.
Ça, vous avez ce lien-là aussi avec les musiciens, vous les mettez en scène aussi d'une certaine façon. C'est pas simplement de l'accompagnement sonore, en réalité.
Oui, et ben comme chaque nouveau spectacle est pour moi l'occasion d'explorer un nouveau rapport à la musique, et c'est vrai que c'est un de mes grands plaisirs que de travailler avec différents compositeurs pour à chaque fois, parce que on peut demander des choses bizarres pour des spectacles. On peut demander des musiques à 5 temps, à 7 temps.
Ouais.
On peut faire... c'est l'occasion, des spectacles vivants sont l'occasion de demander à des compositeurs de faire des choses un peu hors normes.
Et
bizarres.
Vous êtes musicien vous-même ?
Pas du tout.
D'aucun instrument ? Votre fille, oui, joue de la basse.
Absolument, Louise joue de la basse, très bien. Et moi, j'ai étudié un peu la trompette à l'école du cirque, mais j'étais pas très très doué, non. Mais j'ai l'oreille, je pense que j'ai de l'oreille et j'adore la musique. Et
qui vous aimeriez collaborer prochainement, même si c'est pas dans l'esprit comme ça, un souhait un peu...
Oh là là.
Peter Gabriel.
On a déjà travaillé ensemble, figurez-vous.
Ah, parce que je trouvais que ça irait bien ensemble.
Mais ça aurait été. C'était sur un projet inabouti. On a travaillé ensemble. Vous savez, malheureusement, la moitié de mon boulot, c'est des choses qui ne se font pas. Et donc, j'avais travaillé sur une cérémonie d'ouverture pour la Coupe du Monde de foot à Berlin en 2006.
Ouais.
Et c'était avec Peter Gabriel et Brian Eno, et c'était absolument génial, et malheureusement ça a été FIFA a décidé à un moment donné.
Ça a dû signer à Vegas et ça s'est mal passé.
Non, pas du tout, non, 2006 non. Du 19 au 22 décembre prochain, c'est déjà la semaine prochaine, au MC93, la Maison de la Culture de Bobigny, et ensuite le même spectacle solo sera joué le 29 mai et du 4 au 8 juin au Théâtre National de Chaillot, adresse que vous connaissez bien puisque vous étiez venu ici nous parler de Contact qui se jouait également à Chaillot. La musique est importante également dans votre vie, mais pas forcément pour danser dessus. Simplement, vous avez baigné dedans au moment de votre naissance à la maison. On écoutait.
Dans ma maison, vous viendrez. D'ailleurs, ce n'est pas ma maison. Je ne sais pas à qui elle est. Je suis rentré comme ça un jour.
Yves Montand, dans ma maison.
Et en 61, c'est votre naissance, Philippe de Coufflet. Vous racontez que vous êtes né dans un milieu d'intellectuels.
Oui, ma mère était journaliste et mon père futurologue.
C'est quoi futurologue?
Il essayait de, il a fait pas mal d'études, écrit plusieurs livres sur l'an 2000 et il essayait de voir de quoi le futur allait être fait. Mais je pense qu'à l'époque, sa grande erreur, c'était de s'appuyer uniquement sur des phénomènes sociologiques et pas du tout économiques. D'accord. Je ne pensais pas que l'argent aurait l'importance qu'il a aujourd'hui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne parle plus que de pognon. Hein.
Un petit peu, ouais. Et la curiosité dont vous parliez tout à l'heure, elle vient aussi de nombreux voyages dans l'enfance. C'est-à-dire, vous avez déménagé, vous avez vécu, je crois, au Liban, au Maroc. Vous avez découvert aussi d'autres cultures, j'imagine aussi d'autres façons de penser, de se mouvoir, même inconsciemment.
Oui, ça doit être ça. En tout cas, j'ai eu la chance effectivement de voyager gamin, et je pense que c'est vraiment bien pour découvrir différentes cultures, être ouvert au monde et enfin, je pense que ça, oui, ça m'a beaucoup
aidé. C'est vrai que c'est une prof de français qui vous a donné envie de monter sur scène, de jouer ou d'interpréter.
Alors ça, c'était ma deuxième sixième. J'ai redoublé ma sixième première.
Pas que celle-là, oui.
Non. Et lors de ma première sixième, j'avais un prof de français tyrannique qui m'appelait Mademoiselle parce que j'avais les cheveux longs et qui me martyrisait. Bref. Et donc j'ai redoublé. Mmh. Et là, je suis tombé sur une prof de français, d'ailleurs dont j'ai appris qu'elle est devenue auteure par la suite, Leïla Sebar au lycée Rodin, et qui était une super prof de français. Et qui nous a fait monter des pièces de théâtre. Et c'est vrai que c'était pour moi une révélation. Tout d'un coup, j'ai pris du plaisir à étudier ma langue parce que c'était au service de quelque chose qui me plaisait, quoi, dans lequel j'ai commencé à faire des costumes, à interpréter avec passion différents rôles. Donc oui, j'ai découvert vraiment le théâtre.
Et c'est elle qui aura changé votre vie. C'est formidable de montrer comment un professeur peut briser ou au contraire faire naître un talent.
Absolument, en tout cas ça peut être, c'était déterminant en l'occurrence.
1974, vous écoutiez Marquis de Sade.
Et en 74, Philippe de Coufflet, c'est votre premier stage d'expression corporelle. Vous racontez que vous êtes dans la rue, vous vous promenez, vous voyez une affiche qui vous arrête. Elle ressemblait à quoi, cette affiche ?
Alors, c'était un visage avec des grands yeux derrière ce qu'on appelle un masque neutre. C'est-à-dire, c'est un masque blanc qui est censé n'avoir aucune expression et qui est un masque qu'on utilise quand on travaille le corps pour justement essayer de faire en sorte que tout ce qu'on essaye d'exprimer passe par le corps et non pas par le visage. Et pourquoi est-ce que j'ai été fasciné par ce masque et ce visage? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai demandé à ma maman de m'inscrire à ce stage.
Et d'aller voir derrière le masque Isaac Alvarez.
Ouais, cet immense professeur avec lequel j'ai pu travailler. Du coup, j'allais tous les étés chez lui faire des stages d'expression corporelle.
Vous qui avez beaucoup d'admiration pour les enseignants, pour ceux qui transmettent et vous apportent encore aujourd'hui, parce que quand on entend que vous prenez des cours de danse, on peut être surpris. Est-ce que vous êtes vous-même par moment professeur? Vous transmettez aussi à d'autres? Donnez-vous des stages?
Il m'arrive de donner des ateliers, mais c'est très rare. J'ai quand même, j'ai mis globalement plus mon énergie dans la création, l'invention, que dans la transmission. Je pense que c'est des métiers différents. Il y a souvent des très grands professeurs qui sont pas forcément des grands
créateurs. De bons danseurs ou de bons créateurs.
Ouais, c'est des métiers particuliers. Hein. Donc moi, je pense que j'ai pas la fibre. Il faut une patience infinie pour être un bon prof. Et il faut pas avoir peur de répéter la même chose tous les jours et d'être capable de le répéter en ayant l'impression que c'est la première fois et en donnant des nouveaux arguments.
Et en gardant son calme.
Et ça, moi, je pense que je pourrais pas.
L'humour, vous l'avez sans doute découvert aussi en étant clown à l'école du cirque, Fratellini.
C'est-à-dire que effectivement, pour gagner ma vie, je faisais partie du trio de clowns Waf Waf, avec lequel nous faisions des spectacles, mais c'était sur des charrettes dans le nord de la France, dans des conditions improbables, à des fêtes de village et des choses comme ça. Donc, je suis pas sûr que c'est là que j'ai appris vraiment à faire rire les gens, mais j'étais intéressé par...
Mais l'école du cirque, par contre, là, vous avez dû apprendre des choses, j'imagine.
Ah, j'ai appris à jongler.
Elle existe encore, d'ailleurs, cette école du cirque.
C'était l'école d'Annie Fratellini, qui existe toujours, qui est maintenant à Saint-Denis. Oui, qui existe toujours, bien sûr. Donc oui, oui, j'ai appris un tas de choses, un tas de techniques.
Et puis le rapport au public, j'imagine, parce que quand on est sur une charrette, sur des places de village, j'imagine que même inconsciemment, on découvre comment susciter l'attention et l'intérêt.
On découvre que les gens, que ça n'est pas parce que vous montez sur scène et que vous faites des choses que vous trouvez merveilleuses que les gens vont vous regarder déjà.
Ouais, ouais.
Donc ça c'est la première chose, ouais, ouais. Faut arriver à capter le regard,
ben ouais.
Ce qui n'est pas toujours facile. Donc j'ai commencé par découvrir ça, je me souviens c'était ça mes premiers traumatismes, de se dire mais c'est dingue, je suis sur scène et ils ne me regardent pas.
Et, oui.
Et donc il faut arriver ensuite à capter le regard, c'est quelque chose.
Et ça c'est quoi? C'est le charisme qui aide?
Bon, il y a des petits, il y a des
ça
trucs, il y a
mais...
des trucs.
D'accord.
Il
les gardera pour lui.
Non, non,
il les gardera pour lui. En 92, vous écoutiez.
Un comme le nez, né comme les jumeaux deux. Trois comme le mousquetaire et quatre. Cinq à sept à huit clos.
Vous avez surtout initié cette chanson.
Alors ça, c'est du Joseph Racaille.
Ouais.
Ça fait partie du spectacle Triton. Joseph Racaille qui a composé la musique de mon spectacle Triton. Et dont ces petites chansons...
Et là, vous guidez, vous ordonnez, vous dites je veux tel tempo, je veux tel propos, je veux que ce soit comme une comptine, je veux que ce soit plus
alors,
agressif.
C'est différent à chaque fois.
Directeur musical, dans ces cas-là, vous êtes quoi?
Sorte de, mais j'essaye de vivre une expérience différente à chaque fois que je fais un nouveau spectacle. Donc j'ai pas de truc, et en l'occurrence pour Triton, ce dont je me souviens, c'est que j'avais découvert, c'était l'époque du film Le Temps des Gitans de Kusturica, et donc tout le monde venait découvrir cette musique merveilleuse serbe, ce folklore serbe qu'on connaissait pas avant ça en France. Et donc j'ai monté, lors des répétitions, j'ai tout travaillé sur le disque du Temps des Gitans que j'adorais, que j'écoutais en boucle à l'époque. Et Joseph Racaille a fait un super boulot, il a réussi à retravailler sur les tempos, les structures musicales. En fait, toutes les musiques de Triton ont les mêmes structures.
Donc il a pris les structures et les habille différemment.
Et il a refait des compositions totalement différentes à partir de choses, de choses de musique existante.
Et 92, vous venez d'avoir 30 ans à peu près, vous avez la trentaine. C'est Albertville. Et alors vous dites que vous avez eu deux chances. Votre première chance, c'est d'avoir déjà mis en scène, d'avoir monté la danse des sabots pour rendre hommage au bicentenaire de la Révolution française. Et la deuxième chance, je crois, c'est d'arriver après la proposition de Jean-Jacques Hanau, qui était apparemment délirante.
Effectivement, j'avais eu la chance donc de travailler avec Jean-Paul Goude sur le défilé du bicentenaire en 89, et là j'étais comme plongé dans cette énorme parade, tout en n'étant pas le grand chef. Donc c'était bien agréable, j'ai pu apprendre plein de choses. Et lorsque 3 ans plus tard, je me retrouve aux commandes d'un autre énorme spectacle, du coup j'avais comme moins peur. Et effectivement, mais ça c'est presque une légende, puisque j'ai jamais rencontré Jean-Jacques Hanau.
Ouais.
On m'a raconté à l'époque que Jean-Jacques Hanau devait mettre en scène cette cérémonie d'ouverture et voulait envoyer les anneaux olympiques dans la stratosphère. Ouais. Et il se trouve qu'on n'avait pas réussi techniquement, financièrement, à réaliser son rêve, et que donc il avait, semble-t-il, claqué la porte. Et là, j'ai eu la chance de pouvoir m'y engouffrer.
Mais 100 millions d'euros le spectacle.
Dans deux francs.
De francs à l'époque. 100 millions de francs, parce que c'est énorme.
C'est 15 euros.
ça fait deux interprètes pour une cérémonie.
Pour 2 milliards de téléspectateurs.
C'est considérable. Comment est-ce que tout d'un coup, vous le dites, vous n'aviez jamais été à la tête d'un truc aussi gigantesque. Comment est-ce que on s'y prend, déjà pour pas perdre pied, pour mener les choses à bien, parce que c'est beaucoup de temps de boulot, c'est plus d'un an et demi de travail de préparation pour une cérémonie.
Quand on vous donne des moyens quasiment illimités et une équipe fantastique pour vous seconder, s'il n'y a rien de...
Il n'y a pas d'angoisse, pas de se dire il faut que je sois à la hauteur.
Pas du tout.
Ah oui.
En l'occurrence, non, mais je pense que j'étais relativement inconscient, j'étais jeune. Et je pensais plutôt que c'était la chance. J'avais l'impression de porter avec moi tout un monde, tout un univers, une esthétique qui à l'époque n'était pas ni connue ni reconnue.
Mm-hmm.
Et donc j'avais vraiment envie de montrer ça et de. Il y avait quelque chose où j'avais l'impression que j'allais pouvoir révéler. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs, puisque j'ai été. Abondamment copié lors des cérémonies d'ouverture suivantes. Donc
ça se dépose pas, les chorégraphies, les idées de spectacle.
La créativité, c'est compliqué.
C'est une vraie question, ça. Ouais. Non, c'est pas comme la musique. C'est difficile, puisque deux pas, à partir du moment où, vous savez, on a que deux jambes, donc à partir du moment où on marche, les combinaisons sont... Tout est dans la qualité, après. Et c'est très difficile.
C'est un peu comme les recettes de cuisine, ça ne se dépose pas, mais il y a ceux qui savent.
Ça se dépose, une chorégraphie, mais enfin...
Ouais, bah on va demander à Rosita Boisseau. Voilà. Bonjour Rosita.
Bonjour Nagui, bonjour à tous.
Il se tourne vers vous, vous êtes, vous travaillez au Monde, à Télérama, vous avez écrit de nombreux ouvrages, dont un sur Philippe de Coufflet, c'était en 2003.
C'est une référence, c'est Rosita, dans le monde de la danse.
Aux éditions textuelles.
Merci, c'est gentil.
Dernier ouvrage sur Pina Bausch, ça s'appelle Danser. Pina, donc répondez déjà à la question de savoir est-ce que ça se dépose ou pas les chorégraphies.
Oui, absolument, ça se dépose. À la SACD, il y a des droits d'auteur, comme pour le cirque aussi, hein, pour la danse, ça fait partie vraiment des
dépôts à la SACD. Donc on peut déposer des mouvements, on peut déposer des chorégraphies,
des créations. On peut déposer des partitions, je pense, on peut déposer des scénarios, puisque vous savez que la danse, aussi, ça s'écrit, comme la musique, au fond. Hein. Et on peut déposer, je pense, oui, des histoires, des scénarios, des synopsis, la musique, etc., les costumes.
Enfin, faites-le,
je pense,
Philippe, j'ai pas de conseils à vous donner, mais faites-le si...
Faites-le, que ce soit Nagui qui le fasse, oui, parce qu'il va le déposer.
Franchement, je vais le déposer, moi. Vous placeriez Philippe de Coufflet comment dans le monde de la danse moderne et contemporaine?
Alors, je le placerai sur le podium, hein, quand même, déjà. Vraiment le podium, et en même temps juste à côté. C'est un peu un paradoxe, je ne sais pas comment je vais démarrer pour terminer ça, mais c'est évidemment une des figures de la danse contemporaine depuis le début des années 80, un des chefs de file, et en même temps, il a toujours été un petit peu à part, hors toujours norme. Inventif, toujours différent. Mmh. Il a par exemple jamais voulu diriger de centre chorégraphique national, comme la plupart des grands chorégraphes issus des années 80. Et puis, il a toujours su réinventer son désir et son talent à travers, vous en parliez, le Crazy Horse, à travers le Cirque du Soleil, à travers de nombreuses productions et participations très à côté.
Mais
c'est vrai qu'on a assez parlé, je suis d'accord.
Un peu douloureux, quand on, est-ce qu'on peut le définir justement? Ça veut dire prendre des risques, ça veut dire ne pas se contenter d'une espèce de confort ou d'une signature qui serait la sienne?
Ah, je crois qu'il y a une signature de Coufflet et on est ravis de la retrouver à chaque fois. Il y a une signature avec tout ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire le jeu d'illusion, les ombres, les miroirs, la démultiplication du réel, l'idée de se perdre un petit peu aussi dans le spectacle. Tout ce que vous racontiez, vraiment, c'est sa signature et on la reconnaît depuis le début des années 80. Et c'est un vrai convertisseur, d'ailleurs, j'ai toujours dit Philippe de Coufflet, à la danse contemporaine. Et puis, en même temps, il y a toujours une petite surprise, un pas de côté, une invention, ou bien quelque chose qui se plante aussi, hein, parce qu'il réussit pas tout, mais il continue à creuser sa voix. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des auteurs de la danse contemporaine, c'est qu'il y a des signatures comme en littérature, et on est heureux de les trouver. Et il y a des hauts et des bas, mais ils sont toujours là et ils continuent à creuser leur chemin.
Et il a des héritiers justement, il y a des, une génération qui suit ses créations et qui cherche à l'imiter, oui.
Moi, je dirais que j'ai pas vraiment l'impression qu'il y ait des héritiers de Philippe de Coufflet. Tout le monde maintenant s'inspire plus ou moins des uns et des autres. Il y a beaucoup de vidéos maintenant, beaucoup de textes, beaucoup de musique pop dans tous les spectacles de danse contemporaine. Donc il y a une sorte de mix, de grand mix de spectacles multimédia dans la danse contemporaine. Mais des héritiers, non, franchement, je vois pas spécialement aujourd'hui.
La danse, la place de la danse contemporaine aujourd'hui. Vous avez cet ouvrage sur Pina Bausch. Moi, ça a été une émotion incroyable quand j'ai vu un spectacle de Pina Bausch il y a quelques années. C'est là aussi, c'est une rencontre. L'émotion est présente. Je parlais beaucoup de l'humour de Philippe de Coufflet. J'avais pas ressenti vraiment d'humour chez Pina Bausch, mais plutôt une espèce de déchirement par moment.
Oui, je pense qu'il y a de l'humour chez Pina, mais c'est un humour un peu déchiré, un peu étrange, burlesque, mais un peu sauvage et un peu dur. Là, je revoyais encore des photos, justement, en faisant ce livre, de scènes vraiment complètement dingues. Souvent, on garde des souvenirs de Pina avec des solos, avec des très belles guirlandes, etc. Mais il y a vraiment des scènes de dingue, de folie pure, de violence, de brutalité, qui sont vraiment un humour là très très noir et très profond.
On parlait tout à l'heure de psychanalyse dans la danse. Est-ce que justement les créateurs ils mettent tellement de leur être et de leur faille que ça traduit ce qu'ils sont ou ce qu'ils ont vécu ou les fêlures qu'ils ont pu avoir?
Je ne sais pas si vraiment la danse est une thérapie. Enfin, par exemple, pour Pina Bausch, ça pourrait être effectivement à chaque fois avec la méthode des questions. Elle va très très loin dans la personnalité, dans l'intime des gens. Mais moi, j'ai toujours pensé que la danse contemporaine, lorsqu'elle est profonde et sincère, c'est vraiment un art de l'inconscient. Et c'est pour ça que ça fonctionne si bien avec le spectateur. C'est que si on se laisse aller, si on est un tout petit peu dans l'empathie, si la personnalité aussi de l'artiste est sincère, on entre complètement dans un jeu d'inconscient à inconscient. Et c'est pour ça qu'on peut écrire aussi son propre texte par rapport à la danse contemporaine. Parce qu'elle va chercher très loin dans l'humain. Et elle le met un peu sur le plateau dans une forme évidemment maîtrisée et agréable parfois, pas toujours.
La danse contemporaine est élitiste? Il n'y a qu'une certaine catégorie de public qui va dans ces spectacles?
Non, ça je ne pense pas que la danse contemporaine soit élitiste. Je pense que la danse contemporaine est vraiment ouverte à tous. Il faut juste peut-être, parce qu'effectivement elle a toujours, et elle souffre de plus en plus bizarrement, de cette espèce de mauvaise réputation, alors que c'est simplement juste faux. Peut-être que les conceptuels à des années 2000-2005 ont un peu fermé les écoutilles aux spectateurs, en donnant peut-être pas assez de gestes, pas assez d'émotions, pas assez de tranquillité ou de d'émotions visuelles, mais la danse contemporaine, pour moi, c'est un art vraiment où on est libre d'aller, d'intervenir, de trouver son mouvement, de trouver son geste, de trouver son texte. C'est un texte à écrire et c'est chaque spectateur qui l'écrit et on est complètement libre avec ça.
Alors je vais jouer un peu contre ma paroisse parce que j'adore la danse contemporaine et que je vais voir beaucoup de choses, mais il est vrai qu'il y a des chorégraphes qui proposent des formes de recherche aussi, hein, qui, on voit aussi, je parlais de la recherche de Philippe de Coufflet, mais je trouve que Philippe, pour le coup, permet de rassembler tous les publics, ça peut être le cas aussi de la Batsheva Company, ça peut être le cas de Crystal Pite, de personnes comme ça qui sont, même Pinabash, je pense qu'elle est beaucoup plus accessible. Après, on peut tomber aussi dans des travaux qui sont beaucoup plus hermétiques et qui donnent la sensation au spectateur qui ne fait pas partie de la troupe.
Il y a des salauds. Hein.
C'est valable. Non. Mais Leïla, c'est valable pour n'importe quelle forme d'art. Tu peux le dire pour la musique, tu peux le dire pour le cinéma, tu peux le dire pour l'écriture.
Sauf que la danse, pour le coup, et c'est pas moi qui le dis, on le voit aussi.
C'est toi qui le dis. Non, j'étais là, c'est toi qui
disais. Rosita, je vais continuer à parler avec vous, mais je veux dire par là.
Quoi ?
Vas-y,
je
parle dans
la danse pourrait, et je le souhaite, devenir un art très populaire. Or, on ne va pas voir un spectacle de danse comme on va voir un film au cinéma. Et donc, c'est sûr que c'est comme pour l'opéra. Les gens ont la sensation, et c'est un stéréotype, mais que ça n'est pas pour eux. Et donc, c'est vrai qu'il y a quelques chorégraphes, quand on voit leur création, on peut se dire, bah voilà, moi, j'arriverai jamais à traîner mes parents pour voir une telle pièce, parce que ils vont se dire en sortant, je suis bête, je ne comprends rien. Parce que c'est ça en fait la problématique, Rosita.
Oui, souvent on entend des spectateurs qui disent je n'ai rien compris. Ouais. Et en fait, c'est juste pas ça qu'il faut se dire.
Il faut accepter
on
n'en
a rien à faire en fait de ne pas comprendre. Il faut se laisser
c'est
aller et profiter. Et par contre,
c'est
pense
comme
qu'il
de
faut...
regarder un tableau dans un musée aussi on est ému ou on n'est pas ému.
Non, mais ça, on est
ou
d'accord.
Écouter un discours de Jean Lassalle.
Ouais. Non mais ça on est d'accord, mais vraiment très sincèrement, si tu poses la question au grand public, pourquoi les gens ne vont pas voir de la danse ou pourquoi les gens ne vont pas voir l'opéra,
je suis pas d'accord,
c'est pas une question d'être d'accord ou pas d'accord,
mais
c'est
si,
les chiffres,
mais non,
c'est
mais
les
tu chiffres va, tu vois dans mais les salles si. moi j'ai vu des familles
moi je te soutiens Leïla,
mais tu ne verras pas toutes les familles aller voir des spectacles.
Je suis désolé de vous faire assister à ça,
c'est passionnant, c'est exactement ça le débat.
C'est aussi abordable en termes de prix, c'est pas élitiste au sens où c'est cher, on peut pas y aller.
Non, je suis vraiment
désolée.
Philippe,
si vous êtes en quelque part, n'hésitez pas.
Je suis vraiment désolée encore une fois.
Si vous attendez,
mais allez voir le travail, par exemple, d'un jeune chorégraphe que j'aime beaucoup, qui s'appelle Noé Soulier. Pour le coup, je traîne ma mère là-bas, elle sort, elle me dit que se passe-t-il. Et en revanche,
allez voir. Il se passait des choses.
Mais il se passe des choses magnifiques. Mais il faut des codes. Allez voir Docteur Labus de Galota. Oui, on peut être saisi par l'émotion. Voir le travail de Noé Soulier, qui est dans la déconstruction du mouvement, la compréhension des gestes et de l'intention, c'est pas du tout la même histoire. Donc, de même qu'au cinéma, il y a des comédies hyper populaire, et puis il y a des films un peu plus obscurs que les gens peinent à aller voir, mais c'est important qu'ils existent. Je ne dis pas ça, je dis simplement que la danse souffre encore, comme l'opéra ou certaines pratiques, d'une sorte de clivage, de se dire c'est pas pour moi.
Et on est peut-être prisonnier aussi un peu du côté rationnel, c'est-à-dire il nous faut un scénario, il faut qu'on comprenne, il faut qu'il y ait une chronologie, il faut qu'il y ait des personnages, et effectivement il n'y a pas toujours ça.
Et peut-être que les musiques peuvent également jouer en étant plus populaires, ce que fait peut-être Christine and the Queens aussi dans ses chorégraphies, avec des tempos qui sont plus abordables qu'un Pierre Boulez, ou une déconstruction musicale aussi. D'ailleurs, des clips de tubes, de succès populaires. Vous avez déjà fait des chorégraphies, Philippe?
Alors moi, j'ai réalisé deux clips à mes débuts, un pour New Order et l'autre pour les Fine Young Cannibals. Et il se trouve que c'était deux tubes, donc c'est bien.
She Drives Me Crazy, c'était vous?
Ouais.
Ah ouais, ouais. Ah ouais. Respect.
Et puis le clip aussi de Théodore, Paul et Gabriel, Darling.
Oui. Ça c'était malheureusement un moins grand succès. Mais
ça c'est papa qui a fait le clip, c'est pas pareil. C'est papa qui a fait le clip. Danser Pina, très bel ouvrage avec de sublimes photos et des témoignages. Finalement, de se dire, pour définir quelqu'un, le mieux c'est de la voir par le prisme de tous ceux qui ont connu, travaillé avec elle autour d'elle.
J'aime toujours rencontrer les danseurs. les faire parler de leur travail, parce qu'ils en parlent très très bien. J'avais déjà fait un gros bouquin qui s'appelle Ballet, où je faisais parler des danseurs de l'opéra et des danseurs plutôt classiques. Et là, c'est vrai que Pina étant morte aussi en 2009, j'avais ce projet depuis très très longtemps. Et c'était vraiment le bon moment là de pouvoir les rencontrer. Ils sont beaucoup plus tranquilles, beaucoup plus calmes, ils ont envie de parler, ils peuvent parler, même s'il y avait beaucoup d'émotions aussi à faire ce livre. Et j'avais effectivement envie vraiment de savoir comment ça se passait pour chacun d'entre eux. Parce qu'à force de les voir depuis le début des années 80, on commence à les connaître, on commence à les aimer, on les repère, il y en a qu'on adore plus particulièrement. Et c'était vraiment rentrer dans les couches et les sous-couches de vie de gens aussi. Parce que la plupart des danseurs que j'ai choisis sont des danseurs historiques de Pina. Et ça veut dire qu'en fait, bah, Pina était la femme de leur vie. Pendant toute leur vie, ils ont travaillé avec une seule femme. Bon, certains sont partis, revenus. Mais c'était une passion, un amour du travail, un amour pour cette femme qui est juste dingue par instant. Et où ils ont tout donné, vraiment, au spectacle et à Pina Bausch. Et j'avais envie de savoir comment ça se passait un peu dans les coulisses, mais sans côté voyeuriste ou quoi que ce soit. Juste, racontez-moi comment ça se passait. Qu'est-ce qu'elle vous demandait? Comment vous avez creusé à l'intérieur de vous? Qu'est-ce qui est sorti? Comment vous avez vécu ça? Voilà. Et j'étais vraiment ravie et très émue de faire ce bouquin et je suis très fière.
Et vous pouvez, c'est un très bel ouvrage aux éditions textuelles dans Pina. Merci Rosita Boisseau.
Merci Nagui, merci
d'être venue à ce micro. Tanguy Pastureau, bonjour.
Bonjour Nagui, bonjour.
Un photographe danois a créé le scandale en Égypte.
Oui,
chez moi.
Mais oui, puisqu'il a posé tout nu avec une dame tout aussi nue, sans doute des Danois très pauvres, dans une posture explicite du hiéroglyphe inversé en haut de la pyramide de Khéops. Bref, à part porter un t-shirt Dieu n'existe pas, il a fait tout ce qui est interdit de faire en Égypte. Lui dit que c'est pour l'art, hein, qui a bon dos.
Original. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez avec Leïla Kadoboudadi, Daniel Morin, Albert Albou, Tanguy Pastureau, Frédéric Sigrist, Alexis Le Rossignol et notre invité Philippe Decouplet. Philippe, vous serez, paraît-il, du 19 au 22 à...
Décembre,
oui, la semaine prochaine, à Bobigny, MC93, pour ce spectacle. Un spectacle, est-ce qu'il y a, comme au théâtre, des évolutions d'une soirée à l'autre? Ou est-ce que, justement, parce qu'il y a des machines, des caméras, d'un jeu de lumière, où vous êtes obligé de respecter à la seconde près le moindre mouvement? Ou il peut y avoir
alors,
une improvisation?
Il se trouve que c'est un solo. Je suis comme seul en scène, donc...
Faux.
D'accord,
Il y a beaucoup de techniques.
Bien accompagné.
Mais oui.
Et je dois vous dire que le titre originel dont je ne me vante plus aujourd'hui est le doute m'habite parce que je suis habité par le doute effectivement et que je remets en question ce que je fais constamment et que je cherche sans arrêt à faire autre chose et donc effectivement pour ce solo j'ai comme une trame. Il y a une trame. J'ai un certain nombre de rendez-vous avec la musique, avec la lumière. Dans l'espace, je sais que je dois faire ça à tel moment et ça à tel moment, mais entre ces rendez-vous, je suis assez libre. Et donc, en fait, c'est un mélange entre une espèce de vaste improvisation et quelque chose de très précis.
Vous avez expliqué que, justement, vous créez vos spectacles en fonction de la réaction du public, en fonction même de votre propre ressenti sur scène. Vous pouvez raccourcir des moments et au contraire, profiter d'autres instants.
Oui, j'ai toujours j'ai une espèce de hôte virtuelle, une sorte de Père Noël, mais j'ai une sorte de hôte virtuelle dans mon dos et je vais y piocher des choses au fur et à mesure de ce que de ce qui se passe, du sentiment que j'ai, du public, de la sensation que j'ai du public.
Albert,
je voulais juste dire une chose, c'est que c'est d'une grande beauté. On ne l'a pas assez dit. C'est un spectacle
formidable
d'un point de vue esthétique et du point de vue de l'émotion. On est séduit par la beauté tout simplement de ce spectacle et là on sent plus le travail dont on parlait tout à l'heure.
On sent pas le travail et pourtant on imagine que c'est extrêmement
complexe
et c'est beau et on encourage tout le monde à aller l'applaudir. MC 93 donc du 19 au 22 décembre la semaine prochaine.
Bobigny.
Philippe Decouplet en solo à Bobigny exactement. Le doute m'habite, il n'aurait pas renié ce titre. Voici Tanguy Pastureau. Tanguy, être nu, vous aimez ça, c'est formidable.
Oui, si je pouvais, là, je me déshabillerais, mais nos audiences exploseraient et j'ai pas envie de nuire à Stéphane Bern, notre concurrent que j'aime bien. Nu, on est libre. Quand on court, on sent tout bouger. On a l'impression d'être un flan au caramel démoulé dans une assiette tenue par un vieux calâtre en blotte. Et puis, on ne peut vraiment se connaître les uns les autres qu'en étant nu. Là, par exemple, de Daniel Morin. Je peux dire, ouais, il écrit bien, ou hier il m'a souri, donc je pense qu'il est malade. Mais tant que je l'ai pas vu nu, allongé sur le dos, sa pilosité faisant qu'il se confond avec sa descente de lit, je peux pas accéder réellement à ce qu'il est. On reste en surface. On se moque souvent de Rocco Siffredi, qui a fait sa carrière tout complètement nu, mais lui a eu des relations profondes. Bref, être nu est super, mais la société n'accepte pas ça, à part au Cap d'Agde de l'été ou Porte de la Chapelle quand vous veniez acheter du shit et que vous vous êtes fait dépouiller. Elle a donc créé les vêtements. Sous Louis XIV, on portait des jabots, des rubans, des collants, puis peu à peu, ça s'est dégradé. Dans les années 50, on avait des costards cravates, puis en 90, des casquettes, et maintenant, Eddy de Préto en concert déboule en polaire avec un bob. Si bien qu'entre chaque chanson, le public lui jette des tickets resto en criant « Courage, vieux, tu vas t'en sortir, la précarité n'est pas une impasse ». Donc, dans toutes les sociétés, le corps est tabou, on ne montre pas ses attributs, ce qui fait qu'on se serre la main plutôt que le sexe. Et tant mieux, parce que ça fait moins mal, notamment pour les amis de Teddy Riner qui peut tordre un attache-remorque avec l'auriculaire. Et donc, en Égypte, ce pays millénaire qui a inventé les émoticônes, ils en foutaient plein les murs de leurs pyramides, bah, y a également des normes sociales. Hein, on se met pas nu, et encore moins sur des sites historiques. Sinon, en Grèce aussi, les gens vont le faire, et vu la taille des piliers de l'acropole, si on fait une photo, personne ne sortira gagnant, à part les piliers. Seul souci, un photographe danois, Andreas Hvid, qui en avait marre de prendre des photos dépressives se baignant dans des lacs gelés en hurlant qu'ils aiment la mort et les yogourts. Et monté sur la pyramide de Khéops, s'est mis à poil et s'est shooté chevauchant une femme en tenue d'Ève, cette dame qui mangeait une pomme par jour, ce qui fait qu'il lui manquait 5 fruits pour être en forme. Or, escalader la pyramide est interdit. En 2016, un touriste allemand, hein, ces gens qui exposaient 3 minutes au soleil sans crème indice de sang, meurt. Ce sont des vampires mais en sandales. Eh bien, il l'avait fait et il a écopé d'une interdiction à vie d'entrer en Égypte. Et faire l'amour nu dans ce lieu, c'est spécial parce que les pyramides, ce sont des tombes. C'est comme si on refourguait des visas à tous les Égyptiens pour qu'ils viennent jouer au docteur dans le cimetière de Pantin sur la sépulture de Mémé Ghislaine.
Cette photo a créé un véritable scandale dans le pays.
Bien sûr, parce qu'en plus, ce compte photographe a posté son cliché sur Internet. Il s'est dit, ça va exciter 2-3 Danois en manque d'exotisme ou l'épouse de Gérard Collomb qui est un contemporain de Khéops à la maison. Mais il a oublié que le web, c'est mondial. Du coup, les Égyptiens l'ont vu eux aussi. Bah, le jour où l'Internet chinois sera libre et où les mecs vont tomber sur les vidéos de Michel Leb en train de les imiter, Xi Jinping va appeler Macron pour lui dire « Salut bébé, donne-moi l'adresse du gonce qu'on aille le chercher pour le foutre dans un camp de travail forcé ». En plus, les pyramides, ça représente la grandeur du peuple égyptien. C'est comme si chez nous, on faisait l'amour sur un camembert. Donc les gens du coin ont été blessés. D'autant que c'est toujours la même chose. Un type débarqué de nulle part se tape totalement de la culture locale et vient montrer son huc. Or, depuis les débuts de l'art, les gens font ça. Regardez les statues antiques, des mecs musclés qu'on a sculptés pile au moment où ils sortaient de la piscine un jour où elle était froide. Plus tard, Gustave Courbet et Picasso, même si les seins sont tout en haut et la tête par terre, d'où le nom du Xara Picasso. C'est parce que si vous avez un accident avec, on vous sort du truc au pied de biche et vous ressemblez à un Picasso. Donc l'artiste qui veut faire un peu original, il se met en bas de la pyramide en doudoune. Là, c'est décalé, parce que des culs, ça fait 2000 ans qu'on en mange, comme diraient les jeunes qui font Erasmus. Ben, c'est humain, il y a toujours un moment où on monte le sien. Zaya, Paul Naref, Kardashian, David Beckham, Tariq Ramadan devant les étudiantes. Édouard Balladur, une fois il avait pris 3 fois de la camomille, ou du coup il s'était tapé un bad trip. Les autorités égyptiennes sont donc furieuses. Et ça, c'est mauvais signe, parce que le maréchal Al-Sissi, qui est à la tête de l'État, c'est pas un drôle. Lui, c'est comme un jeu vidéo, vous avez des crédits, hein, quand vous le perdez, il prend un sabre et vous coupe en deux. Ce qui est très gênant, puisqu'après, quand on mange de la blanquette, il y a tout qui tombe sur le tapis. Alors le photographe, qui a 23 ans, c'est un kid, hein, explique que toute sa vie, il avait rêvé d'escalader la pyramide. Ok, mais pourquoi se mettre nu tout en haut? Moi, j'ai longtemps rêvé de vous rencontrer, Nagui. Et ben, quand vous êtes venu me chercher à la sortie d'RTL, avec une mallette de bifton, en me disant que vous étiez en train de faire défiscaliser le reste de Liechtenstein, bon, ben, je vous ai pas dit, excusez-moi, maître, je vais retirer mon slip. Hein, il faut voir que l'Égypte est un pays pudibond. On n'est pas sur une plage des Landes, où au maximum, Nicole Belloubet, celle qui est chargée de faire régner la loi en France, vous dira, bah, dis donc, la nature vous a oublié, mon pauvre ami. Respectons les lieux qui sont sacrés chez les autres. Et ça va, 2000 ans qu'on voit des culs, par pitié, tous en jean.
Bravo.
Merci, Tanguy Bachelot. La bande originale. Nagui sur France Inter.
Philippe Découfflet, vous êtes sur scène, vous avez dit tout à l'heure, je ne me sens pas l'âme pédagogue, je ne vois pas comment je peux transmettre, et pourtant j'ai l'impression que c'est ce que vous faites régulièrement, ne serait-ce qu'avec ceux qui vous entourent, vous leur montrez ce que vous faites, vous transmettez, même quand on vient dans votre spectacle, vous transmettez des idées, que l'on vous pique d'ailleurs.
Mais ça c'est autre chose, c'est comme c'est quoi, tous les metteurs en scène où on est bien obligé d'expliquer à l'équipe qui travaille avec vous ce qu'on essaye de faire, donc ça fait partie du métier, sinon je ne pourrais faire que des solos, mais des vrais solos, seul donc oui, il y a un temps de partage avec, parce que monter un spectacle c'est diriger un groupe d'artistes, hein. C'est pas facile de diriger des artistes, c'est fragile, c'est sensible, ça a des humeurs, donc il faut
vous moquez là.
Non, je dis vous juste vous qu'il faut être, il faut. Je suis moi-même, j'ai moi-même mes humeurs, mais je dois écouter celles des autres et je dois faire avec et je dois. Donc c'est de la gestion humaine et ça c'est inévitable quoi. Dès qu'on fait un travail collectif, il faut s'occuper des autres et faire en sorte. Et puis c'est eux qui deviennent votre médium. Donc, il faut mieux qu'ils croient en ce qu'ils font pour bien le défendre sur scène. Il y a quelque chose d'essentiel là-dedans. Et c'est aussi pour ça que j'ai pas de répertoire, moi. Ce qu'on appelle du répertoire. La plupart des compagnies, des troupes, créent une pièce et ensuite les jouent tant qu'on leur demande de les jouer. Malheureusement, on n'a pas ce que permet l'industrie du disque, lorsque vous avez une idée, de l'enregistrer, de la graver et qu'elle puisse être produite ad vitam aeternam. C'est vraiment une chose qui nous manque.
Solo, ça fait 15 ans que vous le jouez, même s'il a évolué.
Oui, mais mon corps change, mes capacités. Ouais. Capacité change, donc je faisais sûrement des figures il y a 15 ans que je peux plus faire aujourd'hui. Par contre, aujourd'hui, je fais d'autres choses.
Mais vous parlez beaucoup de ça. Est-ce que vous avez le sentiment de toucher par moments certaines limites?
Peut-être que j'en parle beaucoup. En tout cas, c'est une de mes grandes peurs.
Bah oui, c'est pour
j'ai
ça.
J'ai subi. Il se trouve que j'ai vu pendant mon adolescence des spectacles avec des gens je ne citerai pas de nom, mais qui se produisaient sur scène et il me semblait que la date de péremption était passée. on a tous vécu ça. Et ça devient pathétique. Et l'admiration, le plaisir que vous pouvez avoir à voir des gens, l'admiration que vous pouvez avoir pour quelqu'un. Se transforme en cauchemar tout d'un coup parce que c'est, vous voyez, quelque chose qui est...
Alors, qui est votre regard? Qui va vous dire il faut que t'arrêtes là, ça passe plus?
Vous, le public, hein. Le public, je le sens, je pense que je le sentirai. J'espère que ça ne va pas arriver la semaine prochaine à la Maison de la Culture de Bobigny.
À Bobigny, du 19 au 22. Tout à l'heure, vous disiez que vous preniez encore des cours de danse pour vous perfectionner comme une sorte d'entraînement régulier, quotidien. Est-ce que je vous avais posé la question sur le cardio, est-ce que la course, la marche, le vélo, ce muscle le plus important qui est le cœur, vous le travaillez? Est-ce que vous avez une hygiène de vie? Vous faites attention à ce que vous buvez, vous mangez?
Pas trop, je bois, je fume, c'est une catastrophe. Par contre, je monte dans le métro, j'essaye de monter les escaliers.
Et pas d'escalator?
Pas l'escalator. Je marche pas mal dans Paris, je me déplace, je fais attention, mais ça, on devrait tous faire attention, à faire en sorte de faire un minimum d'exercice physique par jour, quel qu'il soit. Après, je ne fais pas de jogging parce que on m'a dit que c'était complètement idiot, que ça servait à rien. Donc, courir pour courir, je crois que c'est pas utile.
Ça fait mal au dos, en fait. En plus,
je crois que c'est pas utile.
Il faut mieux faire les particules.
Oui.
Non, mais à votre niveau, le coup des escaliers plutôt que l'escalator, ça sonne plutôt comme un conseil de magazine féminin. C'est-à-dire que vous vous produisez sur scène, l'effort est intense. C'est pas juste en montant les escaliers qu'on se maintient en forme.
Ça fait partie, c'est se maintenir en forme, c'est une multitude de choses. C'est votre alimentation, c'est un truc d'hygiène de vie, c'est
mais
l'alimentation.
Oui, mais
quand t'habites au 60e étage...
Non, j'essaye de me nourrir correctement.
Et dans Karate Kid, Maître Miyagi, il fait laver des carreaux pour faire maîtriser les arts martiaux. Donc.
Oh, les références,
okay.
Ben oui. Ça tombe bien, voici le dépôt de bilan de Frédéric Sinis.
Alors, Nagui, si vous voulez continuer de parler à Philippe Découfflet à la place de ma chronique, moi aujourd'hui ça ne me gêne pas forcément.
Ah bon, t'en es là ?
Bon, non, mais parce que faire des chroniques sur l'actualité, c'est un peu comme les paniers de la MAP, c'est-à-dire que chaque semaine tu fais avec ce que t'as, un peu comme dans une EHPAD, tu choisis pas tes légumes. En ce moment, si je devais filer la métaphore agricole, les gilets jaunes, c'est un peu les potimarrons de l'actualité. Mmh. Ah, c'est-à-dire que la première fois que t'en as dans ton panier, t'es tout content, tu vois, vendre de nouveautés dans ton assiette. Et puis franchement, au bout de 2 mois, bah, y a des limites aux recettes que tu peux faire avec, tu vois. Soupe de gilets jaunes, gratin de gilets jaunes, cake aux gilets jaunes. Moi, sincèrement, je suis prêt à monnayer des rapports sexuels contre des tomates ou une barquette de fraises, hein. Et c'est vrai, l'actualité, en ce moment, elle est triste comme une chanson de Damien XVI. Tu sais, Damien XVI, c'est la version low cost de Noir Désir. C'est, mais ce qu'on est jeune et con. Maintenant, il est vieux, c'est tout. L'allocution d'Emmanuel Macron cette semaine, par exemple. Oh là 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 là. Rémi sans famille. Non mais mon fils a pleuré pendant. Et tout est vrai. Il a éclaté en sanglots. C'est Lars von Trier, le conseiller en communication d'Emmanuel Macron maintenant. C'était pas une allocution, c'était un film du dogme. Écoutez.
La colère est plus profonde. C'est celle de la mère de famille, célibataire, veuve ou divorcée, qui ne vit même plus, qui n'a pas les moyens de faire garder les enfants et d'améliorer ses fins de mois, et n'a plus d'espoir. Je les ai vues, ces femmes de courage, pour la première fois disant cette détresse, sur tant de ronds-points. C'est celle des retraités modestes, qui ont contribué toute leur vie et souvent aident à la fois parents et enfants et ne s'en sortent pas.
Tu respectes rien, tu respectes rien.
Attends, je devrais être habitué. Mais... mon fils, il était dans mes bras comme ça, il pleurait et tout. Je disais, mais salaud, quand même, il a 9 ans, quoi. Je sais pas, la prochaine fois, je lui montrerai un truc moins choquant comme l'exorciste ou tout ça, mais c'était. En même temps, c'est beau. Moi, je l'ai trouvé touchant, Macron, dans sa tentative de coup de pouce aux plus pauvres. Hey, l'augmentation de 100 euros du SMIC. C'est vrai, il a augmenté les impôts et maintenant, il nous donne un peu plus de SMIC. C'est... Je me suis dit, en fait, il a fait comme mon fils quand vient mon anniversaire. Mais papa, file-moi de l'argent de poche que je te fasse un cadeau. C'est l'intention qui compte. C'est gentil. Ensuite, il y a eu l'attentat à Strasbourg. Et alors là, moi, j'en peux plus, quoi. Une fois de plus, je me dis, c'est pas normal. On est le 14 décembre, c'est censé être Noël. Le seul barbu auquel on devrait penser, c'est lui, c'est le Père Noël. En plus, avec la psychose que ça va générer en France, moi, cette année, c'est clair, je me déguise pas, hein. Ah non, parce qu'un barbu qui rentre chez toi par effraction avec une grosse ceinture dans une France en état d'urgence, ça sent le fait divers tragique. Hein. Alors du coup, cette semaine, comme j'avais vraiment pas le moral, bah, je me suis réfugié dans une salle de cinéma pour faire ce que je fais toujours quand je vais pas bien, pour retourner vers mes premiers amours, les super-héros. Je suis allé voir le dernier Spider-Man. Et depuis tout petit, Spider-Man, c'est un de mes héros préférés. Parce que Spider-Man, c'est pas un millionnaire comme Bruce Wayne ou Tony Stark, Iron Man, là, qui soigne ses névroses à coups de gadgets hors de prix. Non! Peter Parker, il est pauvre, il est banlieusard, c'est un nerd qui a pas de copine, il vit chez son oncle Ben et sa tante May, deux retraités qui ont clairement pas assez pour vivre, la hausse de la CSG, ça a pesé sur le budget de l'oncle Ben et de la tante May. Et quand Peter Parker, il se fait piquer par une araignée radioactive et qu'il devient Spider-Man. Bon, il a eu de la chance, ça aurait pu être une punaise de lit, un rat radioactif. Je veux dire, ah non, à Paris, bon, il aurait pu se faire ordre pour un rat radioactif. Bah franchement, il aurait une autre carrière, tu vois, ou un caniche, tu vois, un Yorkshire, tu deviens le Yorkshireman, tu te frottes contre les pieds de table, c'est terrible, heureusement, c'est terrible,
ça se joue à rien,
un peu de chose, à rien, et c'était foiré, quoi. Bah, alors, en même temps, se faire mordre par un animal radioactif, ça ne marche qu'en BD, hein, dans la vraie vie, tu te fais piquer par un animal radioactif, tu perds tes cheveux, tu vomis du sang, tu fais pipi fluo, et 3 mois après, on n'en parle plus, hein. Et donc, quand il a eu ses super pouvoirs, Spider-Man, il a pas tout de suite voulu sauver le monde, comme Frédéric Lopez ou François Ruffin. Non. Son premier réflexe, ça a été de faire de la thune. Ça, on le dit pas, mais au début, Spider-Man, il a voulu faire de la maille du brousouf. Et un jour où il aurait pu arrêter un criminel qui passait devant lui, il ne l'a pas fait parce qu'il s'est dit, mais c'est pas mon boulot, je suis pas payé pour ça. Ouais. Et manque de chance, le criminel qu'il a laissé filer, tel une tragédie grecque, assassinera un peu plus tard son oncle Ben. Et c'est là qu'il comprendra enfin la maxime de son oncle, un grand pouvoir implique des grandes responsabilités. Et c'est ce que j'explique tout le temps à mes enfants aujourd'hui. Il y a toute la société d'aujourd'hui contenue dans l'histoire de Spider-Man. On est cerné par des gens qui se comportent comme Peter Parker quand il a obtenu ses pouvoirs. L'écologie, c'est pas mon problème. Aider les plus pauvres, ils ont qu'à bosser. Partager les richesses, pourquoi faire? Mais un jour, c'est son oncle Ben à soi qui disparaîtra. Stan Lee, le co-créateur de Spider-Man qui nous a quittés il y a quelques semaines, a dit « La personne qui aide les autres simplement parce que ça doit être fait et parce que c'est la bonne chose à faire est sans aucun doute un véritable super-héros. » Eh bien, en ce moment, Nagui, je trouve vraiment qu'on manque de super-héros.
Merci, Frédéric.
La bande originale avec Nagui.
Et allez voir Spider-Man, c'est incroyable.
Et le spectacle.
Et allez voir Philippe Decoufflet aussi en solo à la MC 93 de Bobigny du 19 au 22 décembre. Et puis Chaillot, Théâtre National de la Danse à Paris le 29 mai. Puis ensuite du 4 au 8 juin. Entre temps, entre ce mois de décembre et ce mois de mai, Philippe, vous allez monter sur scène pour jouer des nouvelles pièces courtes. Là, on n'est plus dans le spectacle avec son début, son milieu et sa fin, sa structure, mais dans plusieurs moments choisis.
Oui, ça, c'est un spectacle de variété. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs pièces, effectivement.
Vous l'avez créé l'année dernière.
Ouais, ça fait 2 ans que ça tourne maintenant, et c'est un spectacle que j'aime beaucoup, mais cette fois-ci c'est ma troupe. C'est une troupe de gens qui chantent, qui dansent, qui jouent de la musique, qui disent des textes, enfin c'est une forme, encore une recherche de spectacle total, essentiellement physique, mais aussi, toutes les couleurs y sont présentes, et voilà, il y a 5 pièces.
Quand vous dites c'est ma troupe, comment fonctionne une troupe? Une compagnie, est-ce que ce sont des danseurs qui sont salariés, est-ce que vous avez des aides, est-ce qu'il y a un fonds à la création, est-ce que ils ne vivent que des spectacles lorsqu'ils se produisent, comment ça se passe?
Alors là, en l'occurrence, comme le disait Rosita tout à l'heure, ma troupe est une troupe indépendante. Moi, j'ai pas voulu prendre de centre chorégraphique ou de lieu comme ça à un moment donné, parce que je pense que c'est précieux d'être libre, indépendant, autonome. Donc du coup, on a les moyens qu'on a et la troupe vit essentiellement de la vente des spectacles. Mais on est en France où
spectacle.
Où d'une part, on a ce merveilleux statut d'intermittent.
Ouais, il faut le rappeler,
et d'autre part, il y a des subventions pour les troupes comme la mienne. Donc je touche des subventions, mais qui doivent représenter, entre 10 et 15% du budget de la compagnie. Donc c'est quand même pas énorme.
Non, c'était pas tant ce que vous touchiez, c'est
danseurs,
comment vivre.
Voilà, alors les danseurs, eux, c'est des intermittents du spectacle pour la plupart, et ils vivent, ils travaillent avec moi, mais souvent dans les trous, dans les périodes creuses.
Ils travaillent avec d'autres.
Ouais.
Et là, vous êtes jaloux?
Non.
Quand ils travaillent avec d'autres?
Non, je pense que c'est bien. Au contraire, je pense que c'est enrichissant de faire plusieurs choses, de passer.
Avez-vous, les dates sont, on va les mettre sur le site internet de l'émission. Du 1er au 3 février, vous serez à Aix-en-Provence. Du 7 au 9 à Grenoble. Le 14 et 15, à Arcachon. 26 et 27 février à Épinal. 14 et 15 mars à Narbonne. 22 au 24 mai au Havre. Et du 5 au 7 juin à Chalon-sur-Saône. Avez-vous encore des rêves inassouvis de films, de spectacles, de shows?
Écoutez, je rêve depuis petit, je rêve d'être cinéaste, et il se trouve que je monte des spectacles et que je ne réalise pas de films. Donc,
Mais des spectacles qui s'appuient beaucoup sur l'image, donc j'imagine qu'un jour vous allez vous
retrouver. Mais je rêve toujours parce que ça reste, et puis parce qu'il y a un niveau de perfection un petit peu différent. Je rêve toujours de faire 1, 2 ou 3 films avant de ne plus être de ce monde.
Mais qu'est-ce qui vous arrête?
Ce qui m'arrête, c'est que jusque-là, ça ne s'est pas fait pour différentes raisons.
C'est l'idée, c'est quoi?
C'est que d'une part, je pense qu'au cinéma, il faut une histoire très forte et que fondamentalement, je suis plus un créateur de rêves qu'un raconteur d'histoires. Donc, j'ai besoin. C'est un travail collectif, le cinéma comme le spectacle. Mais là, il faudrait que j'ai mon scénariste. Et puis, c'est un milieu, vous savez, c'est toujours pareil. Une fois qu'on y est, je pense que c'est plus facile. Mais j'ai travaillé plusieurs fois sur des projets de films qui ne se sont pas faits pour différentes raisons. Et voilà.
Avec toutes les avancées technologiques, la réalité virtuelle, par exemple, j'imagine que ce sont des techniques, des technologies qui vous attirent.
Absolument. Là, par exemple, en avril, je travaille en Chine. Je monte un spectacle à Shanghai qui est une commande. Et tout le décor et une partie des effets visuels sont faits en 3D. Donc maintenant, effectivement, vous pouvez regarder des spectacles avec des lunettes 3D dans lesquelles on mélange des projections en volume et des personnages réels. Donc ça, je sais pas très bien, mais c'est intéressant. Je sais pas si c'est génial. Allez savoir si ça se trouve.
Non, ce qui est génial, c'est de faire des choses.
Réalité augmentée.
Ouais.
Voilà.
De faire des choses que l'on n'imaginait pas possibles il y a quelques années aussi.
Oui, oui, ben c'est des nouveaux jouets pour moi. Il y a moyen de ça permettre des choses différentes.
Et de projeter même le spectateur dans le décor, dans le spectacle, et de prendre part au
spectacle. Alors ça, c'est encore autre chose qui est très, très à la mode en ce moment, qui va se développer en France, qui est le spectacle immersif. Ouais. Et ça, je pense que c'est quelque chose de tout à fait nouveau et passionnant.
Vers laquelle vous allez?
Vers laquelle j'aimerais aller. J'ai vu un spectacle de ce genre et ça m'a marqué. C'est très fort parce que tout d'un coup, il n'y a plus de scène, plus de salle et vous êtes dans un espace où vous pouvez suivre qui vous voulez.
C'est une réalité et il n'a pas été augmenté. Voici Daniel Morin.
Pour les déjeuners peut-être.
Ah oui, c'est vrai.
Oui, oui. Alors, des excuses. Déjà, la maison de la culture de Bobigny qui n'a pas été suffisamment citée à l'antenne. Et c'est dommage parce qu'il paraît que du 19 au 22 décembre, il y a un solo de Philippe Découfflé. Il paraît que c'est génial.
On le saurait.
Il est hyper fit, il prend jamais l'escalator. Désolé pour ces crétins du Cirque du Soleil qui ont loupé Philippe Découfflé. Bah alors les gars, mais c'est trop tard. Hein. Maintenant, il est plus cher. Hein. Il a pris Nagui comme agent. Vous pouvez pas le toucher. Désolé pour nos auditeurs qui n'ont pas bien écouté l'émission et qui n'ont pas bien saisi que le solo de Philippe Découfflé était présenté du 19 au 22 décembre à la Maison de la Culture de Bobigny. Et ouais, un spectacle dingue préparé en escalier, mais jamais sur escalator. Et désolé pour les fans de Fred Sigrist qui n'ont pas les prochaines dates de son spectacle. Alors le 15, il sera à Dijon et tous les mercredis au Théâtre des Deux Ânes, nouvelle formule à 20h.
Joli. Merci Philippe Découfflé et bravo. Bravo, merci. Bravo. C'est vraiment formidable ce spectacle solo. Allez le voir, vous ne serez pas déçus. Lundi, je vous demande de nous écouter. Oui. Jean-Claude Carrière et Louis Garrel seront nos invités. Tout de suite, voici les carnets de campagne. Passez un très bon week-end. Merci.
Merci les amis. À lundi.